À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Rada Atem-Ganzer, gynécologue obstétricienne, responsable de la Maison des Femmes de Saint-Denis.
Cinquième épisode, et l'éducation dans tout ça. Bonsoir Rada Atem.
Bonsoir Caroline.
Vous levez les yeux au ciel quand je dis l'éducation dans tout ça, comme si vous sous-entendiez qu'il y a beaucoup de travail encore.
Hier, je ne sous-entends pas, j'entends.
Hier, on a parlé de la Maison des Femmes, cette structure que vous dirigez, que vous avez fondée, qui répare les femmes violentées, qui les écoute d'abord avant de les réparer. Mais finalement, mieux vaudrait peut-être que vous n'ayez pas à le faire. Donc la question qu'on va poser ce soir, c'est que faire pour que ça change ? Quels sont les combats, les engagements que vous menez dans le cadre de votre métier pour faire bouger les choses ? Peut-être allons-nous parler d'éducation, au fond. Alors, quelle est pour vous l'importance de l'éducation sexuelle ? Est-ce que vous diriez qu'elle est vecteur d'égalité et de prévention ?
C'est absolument ce que je dis, Caroline. Vous lisez dans mes pensées. Oui, malheureusement, on a beau tourner ce problème et le retourner dans tous les sens. La vraie question, c'est comment on fait pour que ça s'arrête ? Parce que en médecine, on a l'habitude de raisonner en prévention primaire, secondaire, tertiaire. Ça veut dire tout simplement, je prends l'exemple du cancer du sein, je peux vous opérer quand vous avez un cancer du sein. Mais si je sais, par exemple, que en allaitant, en ne fumant pas, en ayant une bonne hygiène de vie, vous aurez moins de cancer du sein, mais je vais plutôt vous pousser à agir dans ce sens-là. Et pour la violence, c'est pareil. On se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? D'accord, on peut réparer les femmes, on peut leur trouver des avocats, de l'hébergement, mettre les mecs en tôle, on peut faire tout ça. Mais en fait, c'est un peu vain, parce que ça va continuer. Et tant qu'on n'aura pas changé le disque dur des personnes, je pense qu'on ne va pas y arriver. Et il n'y a pas d'autre façon, en fait, de changer le disque dur des gens que de les éduquer, les rééduquer. On sait qu'on est tous victimes de biais, de stéréotypes. Il y a des traditions ultra néfastes qui se perpétuent depuis des milliers d'années. Vous avez évoqué l'excision. Pour moi, c'est un emblème, l'excision. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'on sait tous que aucune religion ne le prescrit, que ça ne soigne rien et que c'est catastrophique pour la santé, pourquoi est-ce qu'en 2020, on se lève pas un matin et qu'on dit « hop, on va arrêter de couper les petites filles ». Moi, j'aime beaucoup faire la chirurgie du clitoris, mais ça serait beaucoup mieux qu'on coupe pas et que j'ai pas à réparer. Et on peut le décliner pour tout. Et comment sortir de ça ? Eh bien, je pense qu'il faut éduquer les parents, de futurs enfants déjà, parce que ça va prendre au moins deux générations, soyons réalistes. Et effectivement, l'éducation, alors on appelle ça éducation sexuelle, mais c'est un raccourci. En fait, c'est plus l'éducation à la vie affective et sexuelle, le mot plus adapté, aux émotions, à réinterroger en fait ces certitudes. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons beaucoup, puisque nous allons dans les lycées et les collèges. L'an dernier, on a fait une centaine d'interventions comme ça. Et c'est toujours extrêmement intéressant, parce qu'on voit bien que les enfants qu'on a en face de nous, on leur a raconté tout à fait autre chose à la maison. Et que dès qu'on se met à discuter, c'est quoi une fille, c'est quoi un garçon, c'est quoi les droits des uns et des autres, on voit bien que dans leur tête, c'est très clair. C'est pas les mêmes droits, c'est pas les mêmes personnes. Et ils sont absolument arc-boutés sur leur certitude. Et en fait, tout notre travail pendant une heure et demie, deux heures, c'est d'essayer de les faire bouger, juste un petit pas de côté. C'est long. Et si ça n'est fait qu'une fois dans votre scolarité, c'est presque un coup d'épée dans l'eau. La France a une très belle loi qui dit que ça doit être fait trois fois par an.
En 2001, hein ?
Ouais.
Comment ça remonte ?
Belle et vieille. Et à tous les enfants et tous les ans. Alors effectivement, si vous y allez tous les ans, trois fois par an, vous avez une chance d'impacter la conscience de ces enfants.
Il se trouve qu'un rapport relatif à l'éducation à la sexualité, publié en 2016 par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, montrait que 25% des établissements scolaires déclaraient n'avoir mis en place aucune action, aucune séance en matière d'éducation à la sexualité. Donc, c'est dans la loi, mais ça n'est pas encore appliqué partout.
C'est un problème très fréquent. Il y a de très bonnes lois, elles ne sont pas appliquées, donc elles n'ont pas d'effet. Et on s'empresse de faire une autre loi, mais en fait, si on l'applique pas plus que la première, ben, on aura le même résultat. Et il y a un rapport récent aussi que l'Éducation nationale a commandité l'an dernier, qui arrive à peu près...
En 2021 ?
Ouais, aux mêmes conclusions. Donc, oui, on sait que c'est un bon outil. Malheureusement, on se donne pas les moyens de le déployer. Il y a par exemple d'autres choses. Ce matin, j'étais avec un groupe d'hommes violents qui doivent bénéficier d'une semaine de rééducation parce qu'ils ne sont pas en prison, ils n'ont pas fait de choses assez graves, mais ils ont une injonction de soins et c'est toujours intéressant de discuter avec eux parce que ils sont comme tout le monde, victimes du patriarcat, victimes de ces mêmes traditions. On leur a rentré dans la tête que c'était important d'être viril, que les homosexuels étaient méprisables, et on a pu en parler très calmement, très tranquillement. Et je vois bien que si on pouvait discuter comme ça et créer des espaces pour aborder ces questions-là avec des adultes et avec des enfants, on pourrait peut-être changer un petit peu les choses.
Ça voudrait dire prendre le mal à la racine ?
C'est exactement, avec et sans eux.
Avec et sans eux, c'est-à-dire ?
Le mal.
Ah, vous parlez des traditions.
Petite baguette.
Pardon, j'étais très, effectivement très concentrée, très sérieuse. Vous parlez des traditions. Rada Hatem, mais est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux dangers dans la société d'aujourd'hui du fait des nouvelles technologies, du fait des réseaux sociaux, la pornographie par exemple sur les mineurs, notamment à travers les réseaux sociaux, pour ne prendre que cet exemple-là ?
Dont nous avons beaucoup parlé ce matin, parce que mes gars, ils étaient arc-boutés sur, en fait, c'est la société qui est mauvaise, c'est pas eux. Oui, il y a de très graves et nouveaux dangers, notamment les nouvelles technologies permettent des choses qui n'existaient pas avant. Je prends le harcèlement scolaire. Et la meute des gosses se déchaîne très volontiers sur le petit bouc émissaire. Sauf que cet enfant rentrait chez lui, il était tranquille. Il était dans le cocon de sa famille, il pouvait reprendre un petit peu de souffle. Aujourd'hui, il rentre à la maison, il est suivi par une horde de photos, de SMS, de Snapchat et autres. Et en fait, sa vie est un enfer permanent. Et ça conduit des enfants au suicide. Il y en a un qui est décédé récemment alors qu'il avait survécu à un suicide. Et ça, c'est déjà une première catastrophe. Et je crois qu'on est au tout début de prendre la mesure de la violence que permet cette nouvelle technologie sur les enfants, sur les femmes aussi. Et puis, il y a cette question du porno qui est insupportable. Parce que c'est une industrie hyper florissante, hyper lucrative. Et donc, personne n'a envie d'arrêter ce fléau.
Selon un rapport, là encore, j'ai les rapports sous les yeux, du Sénat par la délégation aux droits des femmes, publié en novembre 2022, 2/3 des enfants de moins de 15 ans et 1/3 de ceux de moins de 12 ans ont déjà été exposés à des images pornographiques, volontairement ou involontairement. Chaque mois, près d'un tiers des garçons de moins de 15 ans se rend sur un site pornographique. Rada Hatem, quel mal cela fait-il ? Qu'est-ce que vous constatez, vous ?
Alors ça fait beaucoup de mal, et il y a aussi des filles qui vont sur les sites pornographiques un peu moins que les garçons. Il y a d'autres statistiques qui disent que 100% d'une classe d'âge de 14 ans a vu du porno, un peu beaucoup, passionnément. Eh bien le mal que ça fait, c'est que là encore on reproduit tous les stéréotypes les plus ignobles. Les scénarios sont toujours les mêmes. C'est un mec fort, musclé, qui a un appareil génital surdimensionné, bien sûr, et une production de sperme homérique. Et en face de lui, il y a une petite fille, en fait. Tout est fait pour la transformer en petite fille. Donc, en même temps qu'on promeut le porno, on promeut la pédocriminalité. C'est beaucoup plus excitant de violer une petite fille. Elle a des couettes, elle est toute rose, toute lisse, elle a parfois des petites chaussettes. Et elle a un sexe qui est retouché, très clairement. On voit que c'est fait pour donner l'impression qu'on couche avec une fille de 12 ans. Il n'y a pas de poils, les petites lèvres sont coupées. Et qu'est-ce que ça dit ? Bah, ça montre cette petite fille qui dit non, non, non. Et cet homme qui dit oui, 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 et qui se serre. Et après, la fille se pâme. Et quel est le message ? On envoie plein de messages aux enfants. Un, t'es pas un vrai mec si t'es pas super bien membré, si tu bandes pas 2 heures, 12 fois par jour. Et quand la fille te dit non, en fait, elle veut, mais c'est que juste son éducation ne lui permet pas de le dire. Donc, vas-y, tu as le droit. Parce qu'en fait, c'est ça le message qu'elle te donne. Et on promeut aussi la sexualité à plusieurs, la sexualité avec des animaux. C'est absolument terrifiant. Et ces images sont accessibles à tous, 5 ans, 8 ans, vous pouvez être à l'école, même si vos parents font attention, ne vous donnent pas de smartphone, à la maison, il y a contrôle parental sur tous les ordinateurs, mais à l'école, vous avez un grand il vient vous mettre sous le nez le téléphone en disant regarde.
Et les portables sont interdits dans les enceintes scolaires.
Bien sûr, bien sûr.
D'école primaire, en tout cas.
C'est ça. Mais quand il y a le collège à côté, ça, il n'y a pas de problème. Et à la sortie, pareil. Et quand vous avez ça et que vous ne comprenez même pas. En fait, vous voyez des images extrêmement violentes, extrêmement agressives. Et le drame du porno aussi, c'est que cette sensation que ça génère, c'est à la fois du dégoût et de la fascination. Et ça, c'est le cocktail idéal pour créer une addiction. Donc beaucoup de jeunes, finalement, veulent encore plus d'émotions de cette nature et donc vont consommer encore plus et encore plus. Et puis certains vont passer leur soirée à se masturber compulsivement en regardant du porno au détriment de toutes les autres activités, pas seulement scolaires, mais même sociales. C'est extrêmement isolant, le porno.
Qu'est-ce que vous préconisez ?
Je crois qu'on est nombreux à vouloir se battre contre l'industrie du porno et que c'est un mastodonte hyper plein de fric et qui peut se payer des avocats très puissants. Donc c'est un peu David contre Goliath. Mais il faudrait à minima qu'il y ait un vrai, vrai contrôle d'âge des usagers et voir une carte bleue. Parce que quand c'est gratuit comme ça et accessible trop facilement, c'est impossible de fliquer.
Que des ministères comme l'Éducation nationale ou celui de la Santé lancent conjointement des comptes sur des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram pour véhiculer des réponses aux questions que les jeunes se posent. Est-ce que ça peut être une bonne idée, ça aussi ?
C'est un peu, c'est pas de la prévention primaire. Là, on vient réparer, expliciter. Les parents peuvent le faire aussi, par exemple.
Impliquer les parents.
Moi, j'ai des copains qui me disent « Ah, oh, mais je suis catastrophée, mon fils de 7 ans est tombé sur un truc, mais je ne sais même pas quoi lui dire. » Ils sont démunis. Et donc, simplement, de les encourager à aborder le sujet, au lieu de dire « Ah non, mais t'aurais jamais dû regarder ça, mais mon Dieu !» Dire « Bah oui, tu as vu ça, c'est dommage, mais tu sais que c'est du cinéma. Tu sais que c'est pas vrai, tu sais que c'est des acteurs, tu sais que tout est faux là-dedans. » Et déjà, ça permet un peu de faire baisser la pression chez les enfants.
Vous êtes membre d'un programme, vous en parliez tout à l'heure, hein, des gynécologues à la rencontre des adolescents. Vous allez dans les établissements scolaires pour parler aux adolescents. Est-ce que ce sont des questions que vous abordez avec eux ? Et qu'est-ce que vous constatez comme réponse, comme réaction de la part des adolescents ?
Ouais, bien sûr, ça fait partie des sujets. Quand on va dans une classe, on a quand même un certain nombre de sujets dont il faut qu'on soit sûr de les aborder. Le consentement, l'homophobie, le porno, les émotions, voilà. Sinon, c'est qu'on n'a pas bien fait sa séance. Et ben, en fait, au début, bien sûr, quand je demande en rigolant qui a regardé du porno, je suis la seule à lever la main. Et après, ils s'enhardissent petit à petit, surtout quand je leur dis, écoutez, on va pas se mentir, 100% des enfants de votre âge ont vu du porno, donc après les mains se lèvent. Et bah ils sont comme ça, fascinés, dégoûtés. Et puis ça leur pose question sur leur anatomie, parce que parfois ils me disent, moi je pensais que j'étais pas normale, parce que moi je peux pas bander 2 heures d'affilée et 8 fois de suite dans la journée. Moi quand j'éjacule, il y en a pas autant. Et puis ça leur laisse croire qu'il y a beaucoup de sodomie dans le porno, que donc la sodomie est une sexualité super banale, on peut vraiment commencer comme ça. Parfois ils disent à leur petite amie, on l'a vu sur internet, on va faire la même chose, et puis elle n'a pas du tout envie. Et les filles, ça leur donne aussi des complexes. Elles viennent me voir en me disant, oui mais moi mes petites lèvres elles sont un peu grandes. Mais de grandes par rapport à quoi? Mais en général c'est par rapport à ce modèle ultra pédiatrique que véhicule le porno. Et donc, elles veulent se faire opérer pour qu'on leur recoupe ceci. C'est vraiment extrêmement agressif pour les enfants. Donc oui, on en parle, bien sûr.
Est-ce que l'IVG est aussi un thème que vous abordez en classe ? Vous alertez, hein, Rada Hatem, sur un nombre croissant de soignants qui refusent de faire des IVG en alléguant des raisons religieuses. Il n'y a pas que ce côté-là. On voit d'ailleurs dans le monde un recul des droits, aux États-Unis par exemple, mais pas seulement aux États-Unis, mais c'est un pays important en la matière. Est-ce que l'IVG est un thème en permanence sur lequel vous alertez et sur lequel il faut être vigilant, voire continuer le combat ?
Oui. Bien sûr, on voit bien que, mais par exemple dans les écoles, il y a parfois on peut passer une demi-heure à parler de l'IVG. Alors, on peut parler de l'IVG pour expliquer comment ça se fait, c'est quoi la loi, à quel terme on y a droit, est-ce que les mineurs peuvent faire une IVG sans l'accord de leurs parents. C'est des informations techniquement importantes. Mais il y a aussi beaucoup de débats éthiques avec des enfants qui très souvent restituent un peu la parole de leurs parents. la plupart du temps quand ils sont contre. Et je passe beaucoup de temps aussi à essayer de les convaincre que bah, c'est un soin, c'est un droit, et que peut-être élever un enfant quand on a 15 ans et qu'on a d'autres projets dans sa vie, bah, c'est peut-être pas la meilleure nouvelle du moment. Et les filles et garçons sont parfois vent debout. Moi, j'ai des filles qui me disent « Oh ouais, mais elle a qu'à assumer. » Mais elle a qu'à assumer quoi ? Ah ben, elle l'a fait. Donc, il faut qu'elle le garde maintenant. Et quand on commence à discuter un peu plus avant, ben, qu'est-ce que c'est d'avoir un enfant ? Comment on gère sa vie quand on va à l'école et qu'on a un enfant ? Est-ce qu'on peut vivre comme on vivait avant ? Petit à petit, elles sortent de cette espèce de réponse automatique, elle a qu'à assumer. Et puis, dans d'autres écoles, j'ai eu droit à des choses comme « Mais ça vous empêche pas de dormir, vous, docteur, tous ces bébés que vous avez tués ?» Comme ça, des séances qui commencent comme ça, ça met tout de suite le ton. Et bien, ça permet d'en parler. Non, ça m'empêche pas de dormir, et je vais t'expliquer pourquoi ça m'empêche pas de dormir.
Et alors, comment ça se passe derrière ?
Eh ben, ça prend du temps. Il y a des séances où on rame parce qu'on sent que il y a une hostilité de principe très forte. Mais très souvent, quand la séance se termine, je peux voir que j'ai un peu ébranlé certaines certitudes et rien que ça, ça me suffit.
Alors, vous intervenez dans des établissements scolaires, vous êtes aussi dans un certain nombre de collectifs, par exemple, vous êtes la cofondatrice du collectif Prévenir et Protéger, et vous intervenez aussi par d'autres outils, je pense aux livres notamment. À destination des jeunes, vous avez écrit « Avorter, un droit en danger ». À destination des petits-enfants, un livre qui s'appelle Le Loup, qui est un outil de prévention de l'inceste.
Moi, je ne l'ai pas écrit. J'ai participé à son accouchement.
Si vous voulez, parfois participer, parfois écrire. Est-ce que tout ça, ce sont des moyens d'intervention pour vous, des moyens d'engagement, parce que rien ne suffit jamais, d'une certaine façon ?
Je pense que l'éducation, c'est multicanal. Et il y a un livre que vous n'avez pas cité,
Bien sûr, il y en a même plusieurs.
Non, mais un auquel je tiens particulièrement, parce qu'il a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Le sexe et l'amour dans la vraie vie. qu'on a co-écrit avec Clémentine, qui anime l'atelier Réparer l'intime. Et en fait, c'était un parti pris de... Aujourd'hui, les enfants sont submergés aussi de livres, d'informations, et je vois bien qu'ils ont plutôt tendance à zapper. Et donc, avec Clémentine, on s'était dit, il faut qu'on fasse quelque chose où le message soit immédiatement visible. Et donc, on a beaucoup travaillé sur comment j'exprime le consentement, comment j'exprime la gêne, comment j'exprime la honte, le tabou. Et en fait, j'ai beaucoup de témoignages super émouvants, parfois, de gens qui ont 70 ans, et qui m'écrivent « J'ai découvert des trucs incroyables dans votre livre ». Il y a même un monsieur de 85 ans qui est venu me voir, carrément, et qui m'a dit « Si j'avais eu votre livre entre les mains, je crois que j'aurais pas eu le même couple ». Marrant.
J'allais y venir parce que je voulais qu'on termine cet entretien par un certain nombre de messages d'espoir, en vous demandant déjà si malgré tout vous aviez le sentiment que les choses avancent par tous ces petits cailloux que vous disposez un peu partout, par cette maison des femmes dont on a parlé hier, des choses dans la société, des prises de conscience. Voilà, est-ce que vous avez l'impression, peut-être justement parce que vous êtes au plus près d'une génération de plus jeunes, qu'il y a du progrès, ou est-ce que vous voulez nous dire qu'il y a quand même une forme de régression ou qu'on est à la croisée des chemins ?
Non, je pense qu'il y a clairement un progrès. On a fait un chemin, ces 10 dernières années, considérable. Dans la prise de conscience des violences et de leur gravité. Dans la prise de conscience que c'était pas du tout un sujet de derrière la porte. Et que c'était un sujet pour tout le monde. Dans la prise de conscience des violences sexuelles que subissent les enfants. Ça, je crois que c'est la plus grande claque que la société a prise. Avec tous ces jeunes sportifs, tous ces gamins envoyés chez les scouts, tous ces gamins agressés par leur curé, leur évêque, ou je ne sais qui. Tous ces gamins qu'on envoyait faire du sport de très haut niveau et qui se retrouvaient, en fait. C'est toujours cette relation d'emprise, cette relation de pouvoir, ou cette relation de, c'est mon prof, mon maître, mon curé, mon éducateur, mon entraîneur, et donc je suis comme une araignée dans sa toile. Ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas conscience. Et on parlait de prendre le mal à la racine, mais je pense qu'avoir compris ça, ça va peut-être nous aider à être plus vigilants, à mieux protéger nos enfants, à les croire. On a fait un autre progrès considérable, c'est qu'on a pris conscience des violences éducatives ordinaires. Et on est, je crois, le 58e pays à avoir signé la loi anti-fessée. C'est pas très glorieux, mais ça y est, on l'a fait. Et on a conscience aujourd'hui qu'une éducation violente, c'est le lit de toute violence. Donc, si on arrive à éduquer cette nouvelle génération avec moins de violence, avec plus d'attention, et notamment plus de vigilance quant aux agressions sexuelles potentielles, j'ai bon espoir que dans 50 ans, ça ira mieux. Et puis, je suis entourée de trentenaires que je trouve merveilleux parce que ils ont vraiment compris l'égalité. C'est plus un, ils disent plus j'aide ma femme. Ils ont compris que c'était inaudible, j'aide ma femme. Je fais ma part. Et je crois que ce qu'on a gagné, c'est ça.
Et ça se voit dans les statistiques ou ça se voit juste autour de
ça,
vous,
à l'ATM? Ça se voit pas encore dans les statistiques, mais je me dis que si ça commence autour de moi, bah ça va continuer.
Alors ce livre, Le sexe et l'amour dans la vraie vie, pourquoi je voulais qu'on y vienne maintenant? Parce qu'il s'intitule quand même Le sexe et l'amour dans la vraie vie, par opposition à ce dont vous nous avez parlé juste avant, c'est comme un manuel d'éducation sexuelle. À quoi ça ressemble, Rada Hatem, le sexe et l'amour dans la vraie vie, quand ça se passe bien?
Mais quand ça se passe bien, c'est que du bonheur. Et c'est ça en fait, parce que le problème de l'éducation sexuelle, parfois, c'est qu'on fait peur aux enfants. Enfin, on va leur parler des dangers, des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles, du sida, et comment je me protège. Et on va oublier de leur dire que mais la sexualité c'est chouette, et que quand c'est consenti, et quand que ça arrive au bon moment, c'est vachement bien. Il y a une statistique qui intéresse beaucoup les enfants quand je leur dis « Est-ce que vous savez que deux tiers, je crois, j'ai pas révisé, hein, pardonnez-moi, mais des jeunes filles à qui on demande si elles avaient envie d'avoir leur premier rapport disent que non, elles n'avaient pas tellement envie. Mais qu'elles se sentaient obligées par la société pour faire comme les copines, parce que c'était complètement nunuche d'être vierge à 17 ans, et que cette pression-là, en fait, elles l'avaient très mal vécue. Et donc, quand on peut dire « t'es pas obligé de le faire, mais si tu le fais, c'est pas grave ». Et ça, par exemple, ça, c'est un très grand débat. C'est est-ce que c'est pas grave si je le fais? Et là, tous les papas et les hommes que j'avais ce matin dans ma réunion, c'était impensable pour eux que leur fille ait une sexualité. Impensable. Ils pouvaient pas. Je dois travailler là-dessus, ils me disaient ça. Mais je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et je ne sais pas si vous avez vu ce petit film que nous avons coproduit avec Ciné TV. À partir d'archives de Lina.
Good girl.
Eh bien, il y a une scène comme ça où on demande aux parents s'ils pensent que leurs enfants ont une sexualité. Cette scène est hilarante. Les hommes sont comme, mais je sais pas, ils sont sur la lune, quoi. Ils savent absolument pas quoi répondre. Ils avaient même jamais imaginé cette question. C'est très édifiant.
Vous avez une fille et deux fils, si je ne m'abuse.
Ouais.
Est-ce que vous diriez qu'ils sont aussi combatifs, aussi persévérants que leur mère? De ce point de vue-là,
j'ai essayé surtout de leur apprendre l'égalité. Et c'est merveilleux quand on a des enfants, parce que c'est un terrain d'expérimentation. Bon, après, il ne faut pas se louper. Et je me suis aperçue que c'était un effort, parce que ça ne vient pas spontanément, de s'empêcher de dire à sa fille « viens m'aider », plutôt qu'à ses fils. Et d'essayer à tout moment de se dire « non, je vais essayer de ne pas avoir une éducation genrée ».
Est-ce que c'est par là que passe votre féminisme, si vous vous dites féministe, Rada Hatem?
C'est une des voies. Je pense qu'en fait, c'est mon travail au quotidien qui fait l'espèce de féministe que je suis. Cette volonté que les femmes aient des droits, des choix, qu'elles puissent... Alors on dit disposer de son corps, on ne dispose jamais vraiment de son corps, mais en tout cas, que quand on n'a pas envie de certaines choses, eh bien on puisse le dire, on puisse bénéficier de l'accompagnement de la médecine pour que ça soit possible. Je pense à d'autres sujets, comme par exemple le fait de demander une ligature de trompe quand on ne veut pas d'enfant. Ça a été longtemps un sujet plus ou moins interdit en France. On disait que c'était une mutilation. Il y avait très peu de médecins qui acceptaient de le faire. Moi, je l'ai toujours fait. Parce que je considérais qu'une femme majeure, adulte, qui avait réfléchi, pesé le pour et le contre, et qui voulait une ligature de trompe, je n'avais aucune raison de lui refuser. Sinon, je la traitais comme une enfant. Et aujourd'hui, c'est devenu légal. Et aujourd'hui, on s'est même aligné sur le Canada, qui dit qu'à partir de 18 ans, c'est possible. Et ben, beaucoup de mes collègues m'envoient leurs patientes parce qu'ils me disent « moi, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire à une gamine de 20 ans ». Et je les comprends, c'est vrai qu'on se dit, là, elle va changer d'avis. Et en même temps, voilà, elle est là, c'est une adulte, elle te le demande. Elle a le droit.
J'aimerais qu'on termine par trois figures de femmes qui sont importantes à vos yeux. féministes, je ne sais pas toujours. C'est pour certaines d'entre elles, si, on sait. Marie Curie, pour commencer, parce que vous avez écrit une lettre à Marie Curie.
J'aime beaucoup Marie Curie parce que, comme toujours, on se projette. Marie, c'est une immigrée. Elle est pauvre. Elle est extrêmement volontaire. Elle croit en la science. Et en même temps, elle a beaucoup de courage parce que, au-delà du fait qu'on la voit touiller son truc là, noir, avec son tablier pendant des heures et des heures pour extraire ses travaux, elle a eu le courage de s'opposer à la société, elle a eu le courage d'être amoureuse, elle a eu le courage d'avoir un amant, elle a eu le courage d'élever ses filles avec ses propres convictions, elle a eu le courage de créer les petites curies et d'aller sur les terrains de bataille pour faire des radios aux soldats. Enfin, cette femme était folle, hein, on peut se le dire. Et je trouve ça extraordinaire, c'était il y a longtemps quand même. Elle a 2 prix Nobel. Moi, j'en connais pas beaucoup des comme ça. Et alors on lui prête des tas de remarques très drôles comme qu'est-ce que ça fait de vivre avec un prix Nobel, et elle répond bah demandez à mon mari. Beaucoup d'humour cette femme, je l'aime beaucoup.
La deuxième, c'est Simone Veil. Vous avez reçu en 2018 le prix Simone Veil des trophées Elle de France, décerné par le public, c'est important je crois, pour votre action en faveur de l'égalité. Simone Veil.
Bah Simone Veil, ça coule de source. J'ai revu le film Simone là récemment et je me suis aperçue que j'avais oublié des moments super importants. Son combat pour les prisons, son combat en faveur des victimes du sida. On se souvient de l'IVG parce que c'est extraordinaire. Mais en fait, cette femme est tout simplement improbable. Une capacité de travail hors norme, des convictions chevillées au corps et... Dans les deux cas, je pense, l'intime conviction que le ciel est la limite et que si je veux, je peux. Je crois que ces deux femmes, elles nous ont montré énormément de choses et on leur doit beaucoup.
La dernière a prononcé une phrase qu'on ressort souvent. Cette phrase, c'est « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ». Un avertissement qui est peut-être toujours valable, c'est Simone de Beauvoir. Vous avez reçu, Rada Hatem, le prix Simone de Beauvoir en 2022 pour la Maison des Femmes.
Oui, c'était très inattendu parce que je ne suis pas un écrivain. Je pensais que c'était un prix qui n'était décerné qu'aux écrivains. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que Simone de Beauvoir est une féministe singulière. Elle a fait des choix radicaux, originaux. Et oui, sa phrase est prophétique. Elle a profondément raison, Simone. Mais vous oubliez encore une femme dans mon gynécée. Il y a aussi Gisèle.
Bien sûr, Gisèle.
Parce que Gisèle a aussi beaucoup de points communs avec toutes ces femmes. La ténacité, la conviction qu'elles peuvent changer le monde, changer les lois, changer les droits. Et ce sont ces femmes-là, en fait, qui ont fait avancer le monde.
Eh bien, c'est sur ce panthéon féminin que nous allons nous quitter, en vous remerciant chaleureusement, Rada Hatem, pour ces 5 entretiens.
Merci à vous, Caroline.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Virginie Lorda, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.